tuer pendant presque 3 ans. Alors...
Mais il va falloir s'en occuper.
Oui.
Il va falloir s'en occuper de l'après, parce que...
Voilà. C'est... Ça va être terrible, matériellement aussi, puisque le pays est à reconstruire. Il y a beaucoup de villes comme qui n'ont pas été épargnées par des missiles isolés qu'on a envoyés volontairement pour donner la frayeur et créer le stress dans la totalité du pays. Chaque ville a reçu des missiles, même à l'extrême ouest, comme Lviv ou Ivano-Frankivsk. Et il va falloir reconstruire avec quels ouvriers ? Parce que ce pays qu'il faut refaire pour un tiers dans la région Est, les matériaux de construction arriveront. Beaucoup de pays vont les aider. Financièrement, beaucoup les États-Unis. Matériellement, les Allemands, les Polonais, les Français, tout le monde va arriver sur le terrain. Ça peut aller très vite, mais ça mettra quand même, à mon avis, une dizaine d'années pour les travaux, une trentaine d'années pour reconstruire à peu près une famille et un siècle pour reconstruire l'écologie complètement maltraitée. Les forêts sont les lieux privilégiés de loisirs des Ukrainiens. Quand on n'a pas beaucoup d'argent le week-end, quel que soit le temps, allez, on prend tout dans la voiture, on va faire un pique-nique. S'il pleut, on met une bâche entre deux branches. Et la forêt est un lieu privilégié pour les Ukrainiens. Or là, les Russes, en se retirant de chaque zone, minent ces forêts. On a interdit l'accès aux forêts pendant 5 ans. C'est une punition extrême pour les Ukrainiens. Pour vous dire, je suis arrivé le 8 janvier 2018, c'était le jour de Noël, et ils m'ont emmené faire un barbecue dans une forêt, il faisait moins 28 degrés, pour vous dire que rien ne les arrête. Et là, aujourd'hui, ces forêts, ils ne vont plus pouvoir y aller. La cueillette des fruits rouges, la cueillette des champignons, le petit lac est au milieu dans une clairière où on va pêcher la carpe. Tout ça, ça va être d'énormes privations. Et alors, on imagine les drames. 10 ans après la guerre, un enfant de 3 ans qui saute sur une mine dans une clairière. On n'en a pas fini avec tout ça. De fait, l'après va être extrêmement dur.
Vous parlez tout à l'heure des habitudes de vie qu'avaient les Ukrainiens. Est-ce qu'ils réussissent, malgré tout, à avoir une vie... Jamais je vais parler de qualité de vie, mais avoir une vie quotidienne. Est-ce qu'on réussit quand même à pouvoir fonctionner, en guillemets? Est-ce qu'on peut continuer à travailler à certains endroits? Est-ce qu'on peut continuer à se visiter?
Oui, alors là, ça paraît très choquant pour les gens qui m'écoutent, mais ici, on ne va pas faire telle ou telle sortie parce qu'il va pleuvoir demain, on ne va pas là parce que c'est un week-end où il y a trop de monde, rien n'arrête les Ukrainiens. Ce week-end-ci, là, hier, c'était les Pâques orthodoxes, ma femme est allée à la cérémonie avec une amie. Ça commençait samedi à 22h, ça finit à 5h du matin. Les églises étaient pleines partout. On a fêté Noël. J'ai assisté à une fête à Mardi Gras à Kiev qui était absolument incroyable. Sous les missiles qui tombaient, il y avait 1 million d'habitants de Kiev avec des femmes, des enfants, des grands-mères dans un parc et tout le monde dansait avec des costumes traditionnels parce que c'était le jour de Mardi Gras, c'était la veille du grand carême de Pâques, donc 40 jours avant Pâques et tout le monde était là. Les magasins sont pleins, le pays est très bien organisé, on n'a jamais manqué d'essence. Il manquait un tout petit peu de gasoil au début parce qu'on réservait les pompes pour les véhicules militaires. Mais pour dire, on ne manque de rien. Le gouvernement a été draconien pendant cette guerre. On n'augmente aucun prix. Pas d'augmentation du gaz, de l'électricité. On fait tout pour que le civil vive quand même au mieux. La veille de mon départ, là il y a 6 semaines, la centrale électrique de Kiev était bombardée. Complètement détruite, une journée et demie sans électricité à Kiev. Le lendemain, d'énormes SMI étaient installés avec des groupes électrogènes dessus, ça venait de tous les pays, et l'électricité revenait sur la capitale. Ils sont toujours debout et jamais vous n'entendrez quelqu'un dire « on va ». D'ailleurs, c'est un espèce de défi, on ne change pas ses habitudes pour montrer. au peuple russe qu'on est là, debout. On n'est pas très riche, mais on est vraiment soudés. Et soudé sous cet emblème que le drapeau, ce drapeau formidable quand même, du bleu d'azur des ciels et des champs de blé qui, pour le jaune, ils le respectent. On ne passe jamais devant un drapeau sans mettre sa main sur le cœur. Et ils sont extrêmement fidèles à leur patrie, à leur union. Depuis 91, ils sont indépendants, ils n'ont pas du tout envie de retourner à une occupation russe. Et je pense que le monde entier est tourné vers eux. Il faut en être conscient, chez vous, ici, au Québec, parce que là, c'est pas évident. Non, on est passé à autre chose, et on a quand même tendance à se dire, bon, c'est loin, et puis c'est pas notre guerre, et en quoi ça nous concerne. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Parce que l'Ukraine, c'est la dernière forteresse entre la Russie et son gouvernement et son tyran et l'Europe.
Ouais.
L'Ukraine tombe et là, tous les pays d'Europe vont pouvoir sentir la cloche sonner et se dire qu'on y est bien, on est dedans, on est dans une troisième guerre mondiale. Nous sommes à la veille de fêter la 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale dans ma région, qui m'est chère. J'habite Vire, dans le 14, quand je suis né.
En Normandie.
En Normandie. Et là, je peux vous dire que les hommes n'ont pas oublié ceux qui ont donné leur vie, et beaucoup de Canadiens, d'ailleurs,
ben oui,
et beaucoup d'Ukrainiens.
Avec le débarquement de Normandie, il y a encore des reliques historiques qui sont là. Monsieur Lebas, le temps file, il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des moments, des scènes marquantes lorsque vous étiez, comme vous étiez là encore récemment, qui malheureusement, vous pensez encore quand vous vous couchez le soir?
Oui. Quelques semaines avant que je parte, ça a grondé très très fort. Il était 5 heures du matin, j'ai une maison sur 2 étages, j'ai ouvert la fenêtre du balcon, et au moment où j'ouvrais la fenêtre avec la caméra à la main, parce que j'ai toujours la caméra à la main, à l'horizon il y avait une énorme boule de feu, et immédiatement j'ai senti un courant d'air chaud, mais vraiment 3 secondes après, et j'ai été propulsé à 3 mètres à l'arrière, la caméra a volé, et c'était les réservoirs de l'aéroport qui explosaient pour une énième fois dans l'année. Mais c'était extrêmement impressionnant parce que tout le monde a vu des films de guerre ou Rambo à l'œuvre, mais la vérité est tout autre. C'est moins impressionnant au niveau éclat, lumière, explosif, mais le ressenti, ces explosions qui vous rentrent dans l'estomac, là, qui vous pénètrent, qui vous poussent, qui vous déséquilibrent de votre position debout, c'est quelque chose de très impressionnant.
Ouais, avec tous les drames humains probablement aussi que vous avez vu, vous avez été témoin de beaucoup de choses, j'imagine aussi. Là, on va inviter les gens, s'ils en veulent davantage encore, parce que votre film aussi, vous le présentez ce soir à Pointe-le-Bel. C'est à la salle communautaire de Pointe-le-Bel. C'est à 19h.
Oui.
C'est jusqu'à 21h. Les gens vont pouvoir aussi vous poser des questions, j'imagine.
Bien sûr. Et puis, dimanche, chez vous, oui, ici, à Baie-Comeau. Et venez, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai voulu que toute ma tournée soit gratuite. L'entrée est gratuite.
Dimanche,
je viens de faire des milliers de kilomètres pour vous présenter mes images.
Ça. Dimanche, 14h, à la bibliothèque Alice Lane de Baie-Comeau.
Oui.
Donc, les gens peuvent y aller. C'est tout à fait gratuit, effectivement. En terminant, je vous entends plus tantôt, puis on entend souvent que Vladimir Poutine a sous-estimé le peuple ukrainien.
Oh oui, quelle blague. 5 jours pour détruire l'Ukraine. Je crois que tout le monde en rit, partout dans le monde. La seconde armée du monde est complètement ridicule et impuissante devant quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, devant quelque chose qui n'est pas la technologie, qui est simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, la résilience d'un peuple qui peut, bras nus, s'unir, se serrer, se mettre devant la mitraille, mais rester debout.
Ouais, il nous reste 2 minutes, puis je veux les prendre, Monsieur Lebas. Là, c'est quoi la suite pour vous? Là, vous dites, je retourne. Donc, vous voulez pas retourner en sécurité chez vous, en France? Vous préférez, encore une fois, retourner? J'ai encore des choses, mais allez-y avec ça. Puis sinon, M. Macron, qui est le président de votre ville d'origine, a durci le ton dans les dernières semaines.
C'est mon héros.
C'est un des seuls qui dit, si nécessaire, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'Europe, c'est la dernière frontière avec l'Europe. Si nécessaire, nous, on va envoyer des gens se battre.
Oui, tout à fait. Mais en réalité, c'est assez amusant, l'histoire. Je crois que les services secrets français m'en voudront pas trop. Moi, je suis allé filmer l'armée française qui est arrivée sur place. Ils sont en Roumanie avec des blindés, des milliers d'hommes. Ils sont à 300 km d'Odessa. Monsieur Macron a tenu sa parole. Je pense qu'il rentre dans l'histoire. Il essaye d'être le fer de lance de tous les gouvernements d'Europe et tout le monde n'est pas exemplaire. Je cite par exemple la Hongrie. Et en tous les cas, il est là, présent. Nos soldats sont sur place. L'armée de l'OTAN est arrivée aussi. La Roumanie tremble très fort parce qu'ils ont peur pour leur terre. Ils se souviennent de l'avant de Ceausescu. Ils n'ont pas du tout envie d'y retourner. Donc, voilà, il faut être confiant, mais en tout cas, pour ceux qui se disent « mais qu'est-ce qu'on fait dans cette galère ?», il faut frapper, frapper fort. Et maintenant, dans quelques mois, il sera trop tard. On aura vraiment mis un pied dans cette troisième guerre mondiale.
En 30 secondes, je suis désolé, pourquoi vous retournez en Ukraine et vous n'allez pas au chaud, tranquille ? En France?
J'irai au chaud, tranquille, dans les belles stations de ski de l'Ukraine un peu plus tard. Dans l'immédiat, non, je rentre chez moi. Je ne suis pas indispensable, mais je pense que la voix de l'Ukraine, comme on le dit souvent à mon sujet sur certaines ondes, est indispensable. La vérité est plus forte que le mensonge.
Merci beaucoup, M. Jackie Lebas. Vous êtes ce soir à Pointe-la-Belle de 19h à 21h à la salle communautaire et dimanche à 14h à la Bibliothèque Alice Lane. Merci.